la chose commune, cette semaine avec les bergers du Val-de-Loire. Quand la tradition pastorale est une réponse à des enjeux agricoles modernes. Face aux problématiques liées à l'accès aux terres, trois éleveurs ovins du département coopèrent pour faire paître leurs brebis ensemble sur différents terrains publics. Accompagnés par Aglopolis, ils ont remis en place une transhumance et voyagent cet été sur différentes parcelles, de Vineuil à Chouzy en passant par Blois et Candé. Plus que de l'éco-pâturage, ils souhaitent intégrer l'élevage ovin en périphérie de la ville, au plus près de leur circuit court de commercialisation, et valoriser ainsi leurs produits, la viande et la laine. La chose commune vous propose de rencontrer ces trois éleveurs locaux. Entretien réalisé à Candé le 19 juin dernier. Alors bonjour déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement ?
Mathias Salouin.
Mathilde Parmentier.
Céline Boulet-Poquet.
Alors, vous faites partie d'une association qui s'appelle Berger du Val-de-Loire. Est-ce que déjà vous pourriez la présenter aux auditeurs de la radio ?
Alors c'est une association qu'on a créée du coup pour exploiter les terres de l'Aglopolis et des bords de Loire pour pouvoir les pâturer à nous trois. C'était la forme la plus simple pour pouvoir exploiter ça ensemble.
Alors c'est une association relativement récente.
Oui, elle a été créée du coup en début d'année 2020.
Et d'où vient ce projet-là de pâturage et en tout cas de pâturage ambulant, si j'ai bien compris ?
Oui, alors ça a été suite à un appel à candidature de l'Aglopolis auquel nous avons répondu. Enfin, à la base, c'est Céline et Mathias qui étaient partis sur le projet, qui ont fait appel après à moi, puisque l'idée, c'était d'exploiter cette surface qui était un peu compliquée à exploiter tout seul. Donc, du coup, à trois, c'était plus simple avec un système de berger, puisque certaines parcelles sont clôturées en dur et d'autres parties ne pouvaient pas l'être. Donc l'idée du berger, c'était de pouvoir garder les brebis pour pâturer ces parcelles-là.
Par rapport à ces parcelles, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes parcelles, en tout cas plus précisément la dimension de pâturage sur lesquelles vous pouvez installer les brebis ?
Eh ben, il y a à peu près 100 hectares. Il y a la piscine de l'Aglopolis, le lac de Loire, la ballastière, l'ancienne drague de sable à Chouzy-sur-Cis. L'ancien camping de la chaussée Saint-Victor, enfin ça va de Vineuil à Onzain, à Chaumont, voilà.
Et donc pour ça vous avez des brebis, d'où est-ce qu'elles viennent ces brebis ? Est-ce que vous les aviez avant la création de l'association ou est-ce que c'est un cheptel que vous avez créé spécialement pour ?
Non, c'est on est trois éleveurs, on avait déjà nos brebis avant le projet et voilà quoi.
Et vous avez combien de brebis dans le cheptel ?
Alors actuellement, là, on a regroupé 135 brebis avec leurs agneaux. Donc là, il y a à peu près 260 bêtes ensemble. Et l'objectif, en fait, ça serait de monter à nous trois à avoir 500 brebis.
Alors, on peut peut-être justement en parler de ces brebis. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Donc, c'est des brebis de race Solognotte. C'est la race locale qui est en voie de sauvegarde, hein, plutôt. Donc, il y a un programme... pour sauvegarder cette race qui était complètement en déclin dans les années 70-80. Et donc, on participe, nous, tous les trois, à la sélection de cette race. Donc, on a des cheptels inscrits et on produit des reproducteurs et on participe au schéma.
Et quelle particularité a cette race ? Donc, c'est une race locale. Je suppose qu'elle est, du coup, adaptée à la fois au climat et éventuellement aussi à ce qu'elles peuvent trouver pour se nourrir ?
Oui, donc c'est une race rustique qui est faite pour vivre en plein air toute l'année et elle a deux grands attraits, on va dire. C'est une très bonne marcheuse, donc elle peut parcourir de la surface pour trouver en fait sa nourriture dans des terrains pauvres. Et elle se nourrit aussi de diverses plantes, feuillus, arbustes. Elle est très opportuniste sur l'alimentation, ce qui fait qu'elle est totalement adaptée au territoire assez pauvre de la Sologne.
Et donc, du coup, je suppose que vous n'élevez pas des brebis juste par plaisir. L'élevage a une finalité. C'est des brebis qui sont élevées pour quel type de production ?
Alors du coup, les femelles partent en reproducteur dans le schéma de sélection, justement, suite à ce qu'expliquait Céline, pour la sauvegarde de la race. Et les mâles, généralement, partent pour la viande. Donc nous, on travaille en vente directe, essentiellement.
Alors, je rebondis là-dessus. Donc la vente directe, comment est-ce qu'on peut retrouver la viande des agneaux et des moutons ?
Alors nous, on fait des ventes directes à date calée, en fait, dans nos fermes. Après, Céline, elle fait partie d'un magasin de producteurs. Tu peux peut-être mieux en parler que moi, je pense, du coup, de ça.
Oui, donc moi, j'ai pris des parts dans le nouveau magasin de producteurs au nord de Blois, là, qui s'appelle Auprès des Paysans. Donc le magasin devrait ouvrir en septembre. Et pour l'instant, on fonctionne sous forme de drive. Donc on a un site internet, auprèsdespaysans.fr. Et donc les gens peuvent commander différents produits de producteurs locaux sur le drive et venir les retirer à Blois le samedi matin. Voilà.
D'accord. Alors moi, j'avais d'autres questions concernant l'action que vous menez là, qui est une action d'éco-pâturage. On peut la qualifier comme ça ?
Non, sur ces sites-là, c'est plus une action d'élevage, hein, pour valoriser la vente d'agneaux, quoi. Voilà.
On peut apporter une précision, c'est que l'éco-pâturage, en fait, généralement, c'est de l'entretien de parcelles pour lequel on est payé. Là, on n'est pas payé pour ces parcelles-là. Ces parcelles nous sont mises à disposition. Elles étaient là pour pouvoir nous permettre de répondre à un manque de foncier sur chacune de nos exploitations. Et du coup, on n'est pas payé pour ça. Et l'agglo nous accompagne sur ce projet financièrement, nous soutient financièrement. Mais le but à terme, c'est que cette association, elle soit viable financièrement. Juste par l'action d'élevage, en fait. Voilà.
Donc les terrains sur lesquels vous êtes, c'est des vrais pâturages, c'est pas comme on peut l'entendre sur l'éco-pâturage, des bords de route ou des terrains à entretenir qui seraient entretenus par la main de l'homme habituellement.
Ces terrains-là, avant, étaient entretenus par la main de l'homme, et en fait, c'est d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que nous, ça nous sert de pâturage, mais ça évite, à côté de ça, un entretien mécanique.
Oui, donc les animaux rendent quand même un service à la collectivité, en fait.
C'est un échange. Nous, ça nous sert pour notre élevage. À côté de ça, en termes d'écologie, pour l'agglo, c'est de l'entretien en moins à faire.
D'accord. Donc là, vous sortez de plusieurs actions de transhumance. Je suppose que c'est l'élément parcellaire des différents endroits où vont pouvoir pâturer les brebis qui vous y oblige. Est-ce que pour autant, il y a quand même un intérêt à la transhumance à part ça ?
Bah, l'intérêt, c'est aussi le plaisir de partir à pied avec nos brebis, nos chiens, les amis, voilà, et de déplacer les brebis. Mais c'est aussi beaucoup plus simple, malgré ce que peuvent penser beaucoup de gens au départ, de se dire on va faire une transhumance en passant en ville, en passant sur les routes. Ça va être compliqué, mais quand on est bien organisé, qu'on est du monde, qu'on a des chiens, il n'y a aucun problème, que les brebis sont habituées, il n'y a aucun souci. Et c'est beaucoup plus simple pour nous que de les faire monter dans un camion, de faire 36 tours et de payer le transporteur, quoi.
Alors du coup, vous parliez de l'organisation de ça. Comment vous avez organisé cette transhumance ? Comment ça s'organise, une transhumance ?
Là, heureusement que nous avons l'agglo en soutien aussi, parce qu'il y a des autorisations à demander au niveau du département. Je dois avouer que là, moi, je fais une demande, en fait, à Florie Millard, qui est chargée, en fait, de suivre ce projet. Et c'est elle qui s'occupe de toutes les autorisations. Ça a l'air assez complexe.
Je suppose qu'au niveau trajet, notamment, ça doit être compliqué. Vous prenez des routes carrossables ou il y a des voitures ? Est-ce que vous rencontrez des véhicules à moteur sur le trajet ?
Oui, bien sûr. Oui. Bon, en fait, nous, on fait une reconnaissance tous les trois avant pour voir le chemin qui va être le plus faisable déjà pour les brebis, pour nous, et aussi là où on posera le moins de soucis pour la circulation. On est obligé de faire appel sur certains axes, notamment pour certaines traversées de route à la gendarmerie, comme on a eu ce matin pour la traversée de la route de Chaille. La gendarmerie nous accompagne pour bloquer la circulation, sécuriser la traversée. Il n'y en a pas pour longtemps. Et puis après le reste, ça reste quand même, on essaye d'emprunter des chemins ou des petites routes pour gêner le moins possible la circulation et les usagers.
Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés là depuis que vous êtes parti ? Parce que là, c'est le deuxième moment de transhumance. Vous êtes parti du lac de Loire vers la piscine de l'Aglo. Est-ce que ce premier trajet s'est bien passé ?
Ah oui, ça s'est bien passé. Je pense qu'il y avait un petit peu d'appréhension de la part de tout le monde. C'est la première fois qu'on déplaçait nos animaux en zone périurbaine. Mais non, ça s'est bien passé, mis à part la météo, qui était vraiment, vraiment mauvaise.
Et donc là, le deuxième trajet, vous êtes parti de la piscine de l'Aglo jusqu'à... là, on est à Candé-sur-Beuvron. Ce voyage s'est bien déroulé aussi ?
Très, très bien. Et là, cette fois-ci, la météo était bonne. Non, ça s'est très bien passé, aucun souci.
D'accord. Et donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait encore un troisième déplacement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Donc, le troisième déplacement, on est stationné pour quelques jours à Candé-sur-Beuvron pour faire une pause, parce qu'après, du coup, on rejoint donc la Balastière, qui est sur la commune de Chouzy, le long de la levée de la Loire. Et donc, la Loire nous oblige à emprunter forcément un pont. Donc, en fait, on doit rejoindre Chaumont-sur-Loire, passer sur le pont et après revenir sur la Balastière qui se trouve entre Blois et Chouzy, en fait. Donc, ça faisait trop long. Enfin, c'était trop long pour les brebis, même pour nous, de le faire d'un coup, quoi.
Et elles vont rester combien de temps à la Balastière ?
Bah, la Balastière, elle devrait rester 2 mois à peu près, ouais. Là-bas, et puis après, on finit notre saison de pâturage par Chaumont. Donc, on doit pâturer normalement sur les rives de la Loire, sous le château de Chaumont. Voilà, jusqu'au fin septembre, quoi.
Et de septembre à la saison prochaine, où est-ce qu'elles seront ces brebis ?
Bah après, on va les retrier fin septembre pour récupérer chacun notre troupeau. Et puis chacun les ramène chez soi. Donc Mathilde, elle est sur Vernon en Sologne. Moi, je suis à Chitenay. Et puis Mathias, il est entre Candé, Valère, les Montils, voilà, sur ces parcelles-là. Donc on les ramène chacun chez soi pour l'hiver et puis pour préparer la saison de mise bas de l'année prochaine, du printemps prochain.
Vous avez fait appel à des bénévoles, à des amis pour vous accompagner. Ça demande, voilà, pour assurer la sécurité du troupeau et le trajet. Vous aviez besoin de combien de personnes un petit peu sur le trajet là ?
Là, on a besoin de 6 personnes à peu près. C'est surtout pour encadrer les carrefours, quoi. C'est surtout les passages de route, les carrefours, pour être sûr que les brebis elles vont dans le bon sens. Après. On a des bons chiens, donc ils font le travail.
Oui, c'est une question importante. Du coup, vous avez, parce que les chiens font partie de l'équipe, combien de chiens vous ont accompagné là, sur le trajet ?
Là, il n'y en avait que deux, un chien de Céline et un chien de Mathias. Après, on a chacun nos chiens qui travaillent, qui nous aident sur nos exploitations.
D'accord. Peut-être que vous pourriez un mot sur l'usage des chiens. Est-ce que c'est indispensable quand on est berger, par exemple, Mathias ?
Oui, c'est tout à fait indispensable. Et un ou voire même 2 chiens. Ouais.
Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre chien qui vous a accompagné, là, j'ai cru comprendre ?
Bah oui.
Non. Du coup, Céline ?
Ah. Moi aussi, si je peux parler, mais Mathias, il est bloqué. Ah.
Là, les 2 chiens qui ont accompagné la transhumance, donc c'est 2 chiens de 4 ans. Une femelle, Mélisse, qui appartient à Mathias, et puis Joe, c'est mon chien. Donc là, c'est à 4 ans, c'est l'âge où ils sont vraiment performants en termes de dressage et de travail. Donc le chien sur une exploitation, ça a été mesuré, hein, ça représente un salarié à mi-temps. Un bon chien qui travaille. Donc, en fait, nous, on est chacun tout seul sur notre exploitation. Et grâce au chien, on fait toutes les manipulations, tous les déplacements qu'on veut. On peut attraper une brebis dans un champ. Enfin, voilà, c'est un outil, comme on peut dire, mais indispensable. Et en tant que berger, je pense que Mathias, il peut en témoigner, c'est sa première année de berger. Il a 2 chiens et c'est presque pas assez, quoi. Parce que dès qu'il y en a un qui est blessé, il faut pouvoir le remplacer, quoi. Voilà.
C'est une question qui me vient comme ça. Vous avez donc les 3 cheptels, vous avez chacun vos brebis qui sont mélangées. Comment est-ce qu'on fait pour les distinguer ?
En fait, toutes les brebis sont identifiées par des boucles aux oreilles. Donc en fait, avec un numéro individuel. Donc après, on va les retrier par rapport à ces numéros-là, quoi. Voilà.
Et donc ça, c'est votre première année réelle d'activité. Est-ce que vous avez des projets pour les mois et les années à venir ?
On a des projets de transformation, voilà.
Oui, ce qu'on aimerait, c'est développer un petit peu la, enfin arriver à valoriser un peu mieux notre produit, parce que c'est très bien de faire de la caissette, de pouvoir nourrir les gens, c'est valorisant, mais de pouvoir valoriser encore mieux le produit en proposant des rillettes, des pâtés, peut-être des plats préparés, c'est des choses qui sont en projet, oui. Et peut-être de travailler après avec des collectivités, essayer de développer maintenant que le pâturage est mis en route, essayer peut-être de développer la suite en fait, plus la valorisation du produit, parce que c'est quand même pas important dans notre métier, si on ne vend pas notre produit, on ne vit pas. Donc voilà, plus travailler sur cet aspect-là maintenant.
Est-ce que vous savez ce que ça nécessite un peu comme mise en route, investissement
Pour le moment, c'est vraiment à l'étude. Donc pour le moment, en termes, oui, il y aura sûrement un peu d'investissement financier et puis de temps personnel à passer. Mais encore une fois, on a l'aglo qui est là aussi pour nous accompagner là-dessus. Donc on va essayer de voir avec eux pour comment développer ce circuit de commercialisation.
D'accord. Actuellement, vous êtes sur le format associatif. Vous êtes trois membres de l'association, ou est-ce que vous avez des gens qui vous accompagnent autour ?
Non, on est tous les trois les seuls membres de l'association. C'est vraiment une association d'éleveurs pour l'organisation de ce pâturage. Ouais.
Et est-ce que vous comptez éventuellement ouvrir à d'autres éleveurs qui seraient intéressés pour vous accompagner ?
C'est une possibilité, puisqu'il y a de nombreux terrains qui restent encore inexploités aujourd'hui, que ce soit à l'agglo ou même des terrains privés. Et on espère tous que ça crée de l'engouement et qu'il y ait d'autres personnes qui veuillent remettre de l'élevage ovin sur leurs terres. Et du coup, nous, on serait tout à fait ouverts à avoir d'autres personnes qui nous accompagnent, sans problème.
D'accord. Ben, je pense qu'on arrive au bout. Est-ce que, éventuellement, vous auriez éventuellement quelque chose à ajouter ?
Oui, on peut rajouter aussi, on a créé une association alors dont nous faisons partie, mais avec d'autres éleveurs, en tout on est 7, pour la valorisation de la laine de la brebis solognotte, qui s'appelle Au fil des toisons. Alors c'est une association qu'on a créée maintenant depuis, c'est notre troisième année, si je ne dis pas de bêtises. L'idée, c'était de valoriser la laine d'une brebis en fait, qui aujourd'hui part clairement à la benne, elle n'est pas reprise. Et on a voulu la valoriser en local et sur un produit fini de haute qualité. Donc là, on a fait notre troisième saison de récolte. Là, on vient de finir le tri. On l'emmène à la fin du mois en lavage en Haute-Loire. C'est celui qui est le plus proche en termes de lavage écologique. Et après, le fil est filé dans la Creuse. On essaye d'avoir une démarche le plus écologique et la plus locale possible. Alors malheureusement, nous, dans la région, on n'a plus grand-chose pour transformer cette matière-là. Mais on essaye au moins de faire au niveau national pour que la laine parcourt le moins de kilomètres possible.
Et cette laine, vous la vendez ou vous la transformez ?
Oui, on la transforme. On a fait faire quelques produits finis, des semelles, des chaussettes, voilà. On la vend. Alors à l'heure actuelle, bon, on faisait des marchés. Bon, suite aux événements, ça a été un peu compliqué pour cette année. A été mis en place là, cette année le défi laine. Sur lequel il y a eu un peu de communication pour essayer de revaloriser suite aux événements et à la perte due aux marchés qui n'ont pas eu lieu de pouvoir vendre un petit peu de matière, quoi. Voilà.
Très bien, et donc comment est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations en ligne ou ailleurs ?
Alors nous, pour l'association Les Bergers du Val-de-Loire, on a un groupe Facebook donc, auquel il faut adhérer pour pouvoir suivre un peu nos aventures. L'aglo communique aussi régulièrement là-dessus. Ensuite, pour l'association pour la laine, on a une page Facebook, Au fil des toisons. Et pour le moment, voilà, on n'a pas encore de site en ligne. Voilà, site en construction.
Très bien, bah merci.
Merci.
Et puis bonne continuation.
Merci aussi.
La chose commune est finie pour cette semaine. On revient mardi prochain à 9h pour parler à nouveau vélo et du rôle qu'il peut jouer dans une ville à transformer après cette pandémie. Vous pouvez retrouver cet épisode en podcast avec les liens pour aller plus loin dans notre émission du jour. Vous pouvez aussi réécouter les émissions précédentes depuis le début de la saison. Je vous dis à bientôt et d'ici là, on continue d'agir pour la chose commune.